Here's a song that comes from Tanzania. Malaika.
Galère, galère, bonjour à toutes et tous, bonjour aux auditrices et auditeurs de Livres et Amis. Aujourd'hui, notre émission du mercredi 15 juin 2022, pour un format un petit peu inhabituel. En effet, nous vous présentons un livre récent d'un auteur marseillais, Serge Bertrand, et il est présent avec nous ce matin dans le studio pour répondre à nos questions en deuxième partie. Et avant, comme d'habitude, eh bien, nous allons vous présenter ce livre en alternance, moi-même et Françoise, pour les lectures. Donc ce livre de Serge Bertrand, paru en 2022 aux éditions du Lys Bleu, s'intitule « Destination Rock ». Et il a pour tout titre « Un rêve de musique et de liberté ». Il s'agit en fait d'un récit autobiographique parcourant l'enfance et la jeunesse de l'auteur au cœur de Marseille dans les années 50 et 60. On pourrait dire une enfance bien tranquille. Serge Bertrand a changé les noms des personnages du récit pour ne gêner personne dans son entourage, mais les évocations des unes et des autres sont transparentes. Et je suppose que toutes celles et ceux qui l'ont côtoyé se seront reconnus à la lecture. Dans son livre, Serge s'appelle Paul. Il nous dit qu'il a subi une éducation sévère et rigide, mais je crois que c'était celle que subissait aussi la majorité des enfants dans les années 50. Paul n'est d'ailleurs pas un rebelle, même s'il nous dit avoir souffert de brimades et de réprimandes, il s'en est accommodé. Et c'est ce qu'il résume dans la présentation de l'ouvrage en quatrième de couverture.
Je m'appelle Paul. Je suis né à Marseille en 1953. J'ai une histoire à raconter, mon histoire, mais aussi le témoignage d'une époque avec sa philosophie et son état d'esprit. C'est le récit, plein d'émotions, de sentiments et de musique, d'une éducation sévère et rigide, de mes souffrances, de mes joies, de mes douleurs, de mes découvertes et des rencontres qui m'ont construit et permis de rester un enfant dans ma tête.
Revenons donc au récit. Le début du livre est un survol des événements familiaux, avant Paul. Autrement dit, tout ce qu'on a pu lui raconter sur l'histoire de la famille dans la première partie du XXe siècle. Ce ne sont pas des informations de première main, elles sentent un petit peu le lieu commun, le racontard. Nous en viendrons donc directement à l'enfance de Paul, quand il grandit suffisamment pour rendre compte de façon plus personnelle de ce qui l'entoure. Et nous commencerons avec un été de vacances et la rentrée qui suit.
Vacances dans les Alpes. À cette époque, les vacances scolaires duraient 3 mois. Cet été-là, mon père avait loué pour la durée des vacances une maison à Reillanne, près de Manosque, dans les Alpes de Haute-Provence. La semaine, il travaille à Marseille et vient nous rejoindre le week-end. Mon parrain, Marco, a aussi loué une maison pour Mimi et ses filles. C'est formidable. Je peux jouer avec ma cousine Isabelle qui a le même âge que moi. Chaque jour, c'est promenade, pique-nique dans la campagne. Tous les enfants jouent ensemble, fabriquent des cabanes en toute sécurité. Il n'y a aucun danger dans le village. Notre jeu favori, les gendarmes et les voleurs, nous permet de procéder à une fouille minutieuse des corps pour trouver l'objet caché. Mais Isabelle ne se prête pas volontiers au jeu, ou peu. Bien que du même âge que moi, elle est plus avertie sur la sexualité, notamment grâce à sa grande sœur. Moi, dans ce domaine, je vais de découverte en découverte car je suis innocent et ignorant. La plupart du temps, seule avec ma mère, je n'ai pas de copains et encore moins de copines. Ma mère est rigide et sévère. Lorsque je n'obéis pas tout de suite, elle me bat et me punit. C'est le système d'éducation austère et intransigeant qui vaut pour tous les enfants du quartier. Il faut marcher droit sans protester. La plupart des adultes cautionnent ce fonctionnement et personne n'a jamais rien fait pour arrêter ça. Mon père, lui, brille par son absence et ne s'occupe que très peu de moi. Après les vacances, retour à Marseille, où nous reprenons la routine. Une agréable surprise nous attend. La famille Brown a quitté le quartier pendant notre absence. L'intervention de ma mère a dû porter ses fruits. Les langues se délient. On parle des abus que devait subir Greta de la part de son père et son frère, mais personne n'a rien dit avant. Monsieur Edouard est notre nouveau voisin, un vieil homme solitaire ressemblant à un ours à l'hygiène corporelle douteuse. Le temps s'écoule. Chaque samedi après-midi, ma mère m'emmène au cinéma du quartier. Dans cette grande salle au gigantesque écran, je regarde émerveillé les premiers longs-métrages de Walt Disney, Blanche-Neige, Pinocchio, Cendrillon, tout en mangeant des bonbons. Je découvre aussi les péplums, Ben-Hur, les Dix Commandements, Le Roi des Rois, des films qui durent 3 heures avec un entracte au milieu de la projection. Des comiques troupiers, des magiciens, des humoristes se produisent durant l'entracte. Le reste du temps, je suis seule avec mes soldats, mes histoires et mes mondes imaginaires. Mais grâce à ma mère, le cinéma devient et restera une véritable passion. Le cinéma, c'est l'écriture moderne dont l'encre est la lumière. C'est de Jean Cocteau.
Oui, alors par exemple, cette citation de Jean Cocteau, c'est une des très nombreuses citations dont Serge Bertrand émaille son livre. Au milieu des chapitres ou à la fin des chapitres, il donne des citations de ses auteurs ou des contemporains, en tout cas ses citations préférées, qui permettent donc de renforcer ses sentiments, ses ressentis sur le monde qui l'entoure. Donc ici, on a vu des petites histoires d'enfance avec les découvertes, bien sûr, de l'enfance. Et puis, on a vu aussi le cinéma. Et le cinéma, pour Paul, on en reparlera tout à l'heure avec Serge, le cinéma, c'est un amour qui va durer. Et à l'inverse, il y a aussi des petites misères du quotidien qui vont durer. Par exemple, petite misère avant la rentrée scolaire, c'est le passage chez le coiffeur.
Cette année, c'est du sérieux. Je rentre à l'école primaire. Pour me préparer à cette rentrée, ma mère m'emmène chez Guy Nazol. Je le déteste. Lui et sa tondeuse qui me rase le crâne. Guy Nazol. Excusez-moi. Sur son fauteuil de torture, je ferme les yeux et m'abandonne à mes rêves. Je vois Jésus dans le Roi des Rois, sur la montagne de Jérusalem. Des milliers de personnes le suivent. Il ouvre les bras. Une aura lumineuse entoure sa tête et son corps. Il est beau, mystique et dégage grandeur et noblesse. Une légère brise soulève ses longs cheveux qui flottent sur ses épaules. Il s'adresse à la foule admirative. « En vérité, je vous le dis, heureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Brusquement, je suis tiré de ma rêverie par la douleur. La tondeuse à main de Guy Nazol s'est coincée. Il a tiré sans délicatesse pour la dégager en m'arrachant des cheveux. Avec désinvolture, il me tend alors un miroir pour me montrer son travail. Très fier de lui, il déclare qu'ainsi, je n'aurai pas de poux. Comme d'habitude, je suis rasée. Le blanc de mon crâne apparaît. C'est pour moi une vision de cauchemar, une horreur. Et en voyant ce désastre, je me mets à pleurer. Lorsque ma mère vient me chercher, elle me demande pourquoi je pleure. Je lui explique que je n'aime pas Guy Nazol, qu'il est méchant et qu'il a une haleine pestilentielle. Ma mère se penche vers moi pour me murmurer à l'oreille en toute discrétion. « Tu ne dois pas parler comme ça. Tu sais, Monsieur Guy n'a pas été gâté par la nature, mais c'est un brave homme. »
Alors, c'est un brave homme, ça reste à prouver. En fait, bien des années après, Serge... ou Paul, plus exactement, réglera ses comptes avec Guy Nazol parce qu'il n'a pas du tout apprécié les séances chez le coiffeur. On peut le comprendre. Et puis, donc, c'est la rentrée des classes et je vais repasser la parole à Françoise pour ce grand événement.
C'est le grand jour, le jour de la rentrée des classes. Ma mère me laisse devant l'entrée de l'école. Je monte les escaliers et me retrouve dans une grande cour. Beaucoup de bruit, de cris, d'agitation, tout cela me terrorise, je me sens perdue. On me bouscule en riant et se moquant de moi. Je trouve avec difficulté les enfants de ma classe. Brusquement, j'entends un coup de sifflet strident. J'ai peur, tous les élèves se taisent. Un silence total génère un climat d'inquiétude. Comme un diable sortant de sa boîte, le directeur, M. Provençal, apparaît, en criant pour annoncer son arrivée. C'est un véritable colosse, chauve, le crâne luisant comme une boule de rampe d'escalier, avec des poches noires sous ses yeux bleus électriques qui transpercent. Un sifflet pend à son cou, toujours prêt pour se faire entendre. Puis, il monte sur une petite estrade dans la cour et s'adresse à nous, toujours en hurlant. « Mettez-vous bien en rang par classe et taisez-vous, je vais faire l'appel. » Malheur aux dissipés, aux bavards ou à celui qui dépasse un peu dans le rang. La punition est immédiate, claque derrière la tête, mise au piqué droit devant le platane. Et s'il tergiverse, il reçoit en prime un coup de pied aux fesses et son temps de punition est doublé. Je réalise à ce moment-là que la discipline de la maternelle était une plaisanterie en comparaison. Maintenant, à la communale, je vais en prendre pour 5 ans sans remise de peine. Ce règlement strict et sévère accentue en moi le sentiment de me sentir étranger à tout cela, inadapté. Je suis tétanisée, je me sens devenir un fantôme, obéissant, et sans m'en rendre compte, je me noie dans la masse des élèves soumis. La volonté de chaque élément du troupeau est brisée automatiquement. Quand je fais part de mes impressions à ma mère, elle m'affirme « Si le maître vous punit, c'est que vous le méritez. Le maître a toujours raison, il agit pour votre bien. Bien souvent, à l'avenir, quand je serai punie, mes parents doubleront la punition et me priveront de cinéma, m'estimant chanceux de ne pas recevoir en plus une raclée. »
Eh oui, Paul n'aime guère l'école. C'est vrai qu'au fil des pages, lorsqu'il l'évoque à nouveau, c'est plutôt pour égrener des souvenirs de brutalité ou d'injustice. Et c'est un peu aussi l'absence de copains, parce qu'il y a guère de compensation de ce côté-là. Il reste un enfant solitaire. Et il a aussi de son côté des petites, évidemment, des jeux et des petites tricheries enfantines aussi. Ainsi, je vais vous lire ce qui se passe quand il va au bureau de son papa. Ainsi va la vie, ma vie, dans cet univers où je dois bien me comporter, sous peine de punition, retenue, mise au piquet, coup de règle sur la tête ou sur les doigts. Heureusement, les bons points remis par l'instituteur pour mon travail scolaire me servent de monnaie d'échange pour éviter une punition ou une retenue. Alors, les rares fois où mon père m'emmène à son bureau le soir, pendant qu'il travaille sur les dossiers de facturation, je fabrique en cachette, avec du carton et un tampon encreur, de faux bons points. Ensuite, il m'emmène à son quartier général du centre-ville, le bar La Samaritaine. Je bois un coca, il y avait déjà des coca. En mangeant des pistaches, pendant que mon père discute de la gestion de dossiers comptables que lui confient plusieurs personnes. Oui, il y avait déjà des coca, c'est personnel. Hein. Moi, je prenais des diabolomantes ou des diabolocassis quand on m'emmenait. Chacun son truc. Alors, en parallèle avec l'école et les quelques sorties en famille, il y a aussi, et ça, vous allez voir, c'est pas piquer des verres, il y a aussi le catéchisme et en particulier l'expérience un peu étrange qui en découle, celle de la confession.
Dimanche matin, ma mère me demande de lire le livre du catéchisme, d'aller ensuite me confesser à l'abbaye avant d'assister à la messe. Cela fait partie des 3 ans d'enseignement religieux imposés par Mado. Ce que je lis me fait rêver, ce que je vis me fait pleurer. Plongée dans les écritures religieuses, je m'évade. Je vois Moïse sur un rocher face à la mer rouge avec son grand bâton, ses longs cheveux flottants dans le vent, beau, noble et imposant. Il vient de libérer son peuple de l'esclavage et parle de liberté, de vie nouvelle, d'espoir, de terre promise à tous ces gens qui l'écoutent émerveillés. Mais quand je me regarde dans le miroir, je vois mon crâne rasé qui me fait ressembler à un détenu, un déporté, un esclave prisonnier d'un système qui m'oppresse un peu plus chaque jour. Je me sens seul, soumis à des règles imposées, à l'autorité de mes parents, celle des instituteurs et des curés, tenu par la peur des punitions et des brimades. Mon père brille par son absence, ma mère m'étouffe, projetant sur moi ses propres attentes et ses rêves refoulés et inassouvis. Je n'ai pas d'amis, personne à qui me confier ou avec qui partager mes états d'âme. Je m'enlise dans la même routine malsaine. Perdue dans mes pensées, je m'apprête à partir lorsque ma mère me dit « N'oublie pas, le curé est un homme de Dieu, Tu dois tout lui dire, n'aie pas honte. » À l'abbaye, j'attends mon tour devant le confessionnal. J'aime le silence, la sérénité du lieu, les odeurs d'encens, les flammes des cierges qui dansent. Lorsqu'arrive mon tour, je m'agenouille dans le confessionnal et j'entends la voix du prêtre derrière un petit grillage me dire « Bonjour mon fils, je t'écoute, je suis là pour confesser tes péchés, libérer ta conscience et apaiser tes souffrances avec l'aide et la miséricorde de notre Seigneur. » Dans un premier temps, je ne sais pas quoi dire, puis, marmant de courage, je me lance. Après tout, ma mère m'a assuré que je devais tout lui dire. « Mon père, j'ai péché. J'ai menti à ma mère parce qu'elle ne veut jamais que je sorte de la maison. Alors, j'invente des prétextes pour aller me promener dans le quartier. Ensuite, chaque nuit, je rêve d'une jeune femme très belle, brune aux yeux bleus lagon et au corps de déesse. Elle apparaît dans ma chambre complètement nue, me parle gentiment d'une voix douce en me caressant tendrement. Mais quand je tends la main pour la toucher, elle disparaît et une brume argentée virevolte et scintille à l'endroit où elle se trouvait encore l'instant d'avant. Mon rêve s'achève toujours trop tôt, me laissant une étrange sensation au bas-ventre. Je me réveille, le cœur rempli de désirs inassouvis, dans une ambiance de conte de mille et une nuits qui se dissipe chaque fois. « Mon fils, tu es trop jeune pour avoir de telles pensées. Tu dois rêver d'autre chose. Toutefois, quand cette situation se produit, passe ton sexe sous l'eau froide. Afin que notre Seigneur te pardonne tes péchés, tu réciteras 10 Notre Père et 10 Je vous salue Marie. Vas en paix, mon fils, et ne pêche plus. » Je sors perplexe du confessionnal en me demandant de quelle façon je pourrais choisir mes rêves. La réponse du prêtre ne me satisfait pas. Je décide de ne pas faire pénitence et de ne plus retourner me confesser. Avant de rentrer chez moi, je file au patronage jouer au billard. Je me dis que plus tard, si j'ai un enfant, je ne lui imposerai aucune religion, aucune idéologie, lui éviterai toutes les contraintes. Je ne me sens pas le droit de décider à sa place et de l'obliger à suivre une voie. Cela me paraît insensé. En vertu de quoi ? Chacun, avec son propre esprit, sa sensibilité, doit rester maître de lui-même et suivre ses convictions en écoutant son cœur. Nous devons avoir le choix de prendre ou pas un train, uniquement si nous le désirons.
Eh oui, donc en même temps qu'il grandit, l'enfant Paul tire des enseignements de ce quotidien, des enseignements personnels, comme on vient de le voir, des conclusions quasi philosophiques. Oui, ça fait un peu étouffer Françoise, excusez-la, mais ça arrive. Et alors, donc, ces changements du quotidien, on va les retrouver, par exemple, après une période de vacances, on va les retrouver donc à la maison et puis surtout dans la scolarité. Tu reprends ou tu veux...
Oui, on va y avoir. Bon, alors, si je m'étouffe, je te passe la suite.
On va essayer, voilà.
Les vacances avant les travaux. La période scolaire terminée, mon père nous offre un mois de vacances, comme chaque année, dans une région différente. Il me consacre alors un peu plus de temps et prend plaisir à me faire découvrir le patrimoine de notre pays. Absent tout le reste de l'année, il doit se donner bonne conscience pendant un mois. Cette année, c'est le site du Mont-Saint-Michel qu'il a choisi, ainsi que les lieux du débarquement de Normandie en juin 1944. C'est grandiose. Lorsque nous retournons à Marseille, nous sommes hébergés pendant un mois chez mon oncle André et ma tante Suzanne pendant les travaux d'amélioration de notre appartement et par là même de nos conditions de vie. Malheureusement pour moi, Dédé navigue et je dois rester avec une tante Suzanne hyper maniaque dans leur grande maison. Je dois marcher avec les fameux patins de feutre, ne rien toucher, bref, je suis sous haute surveillance chaque fois que je bouge. Seuls avantages, je peux me faire bronzer dans le jardin tout en lisant des bandes dessinées et je découvre la télévision en noir et blanc avec 2 chaînes qui me permet de passer le temps agréablement. Les travaux terminés, nous retournons chez nous et je découvre un appartement complètement transformé. Une partie de la cuisine est devenue ma chambre. J'ai enfin un endroit à moi. La grande pièce qui nous servait de coin nuit a été structurée en 2 parties. D'un côté, la cuisine tout en longueur, équipée d'un chauffage central, d'une cuisinière à gaz de ville et d'un réfrigérateur. De l'autre côté, la chambre de mes parents. À l'arrière du bâtiment, une salle de bain a été créée, comprenant une douche et des toilettes, ainsi qu'un balcon où je peux jouer et ma mère étendre son linge. Notre espace de vie, bien que petit, devient fonctionnel et nous pouvons désormais apprécier un peu d'intimité. Les cloisons, dotées d'une couche de laine de verre, suppriment le bruit du voisinage. La télévision est arrivée, la cuisinière à charbon est partie. Un peu de modernité rend la vie plus facile. J'ai l'impression de sortir de l'ère préhistorique.
Eh oui, donc ce sont les changements des années 60, ce sont les véritables objets de la modernité qui entrent dans la vie de Paul. Et le véritable changement, quand même, c'est, comme dirait Virginia Woolf, une chambre à soi. Donc un lieu pour rêver, un lieu qu'il va décorer à son goût. Et puis surtout, le grand changement, ça va être la rentrée dans un nouvel établissement, le collège, des copains, des lectures plus approfondies. Enfin bon, Paul continue à grandir.
L'entrée au collège. J'ai 12 ans. Le cycle de l'école primaire est terminé. Vive le collège. Cette année, beaucoup de choses changent. Je me déplace seule, ma mère ne m'accompagne plus. Dans la cour du collège, je constate avec bonheur que plus personne ne porte de blouse. La coupe de cheveux réglementaire, crâne rasé, a disparu, remplacée par la coupe en brosse avec tour d'oreille. Nous ne sommes plus obligés de nous mettre en rang, la discipline s'assouplit. L'état d'esprit semble plus ouvert. Mes craintes s'atténuent. Les rares copains que je retrouve se sont groupés deux par deux, sans rechercher spécialement ma compagnie. Je suis seule lorsque j'aperçois Michel Brémond, mon pire ennemi, mon compagnon de bagarre de la maternelle. Quand il me voit, il rigole, s'approche de moi et me prend dans ses bras. Le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Maintenant, nous devenons de super copains, nous sommes contents de nous retrouver. Passionnée d'histoire, je vais découvrir en lisant que les croisés ont pillé, violé, tué pendant la libération de Jérusalem, des atrocités perpétrées pour permettre aux pèlerins l'accès au tombeau du Christ. Les grands inquisiteurs, au nom du Seigneur, ont torturé et brûlé des milliers d'hommes et de femmes qui ne voulaient pas se convertir à la religion chrétienne. Ils ont détourné les textes sacrés et instauré le règne de la terreur. Des enseignements de l'Église, chacun retient ce qui lui plaît et ignore le reste. Malheureusement, avec une telle liberté de conscience, les bourreaux violent les petites filles et les petits garçons en toute impunité. À mon sens, tout cela va à l'encontre du message de Jésus qui a parlé d'amour, de paix et de tolérance. Il a bien dit « Aimez-vous les uns les autres, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre ?» Quelle que soit la religion, croyants et pratiquants, ne devrait-il pas respecter les valeurs morales des Écritures saintes ? En fait, l'éducation que nous recevions ne nous permettait aucun épanouissement individuel. Il fallait rentrer dans le moule, ne pas donner son point de vue, obéir à une autorité supérieure. Tout était conçu pour briser notre volonté, nous écraser, nous empêcher de nous rebeller ou de contester. Quelques-uns ont pu échapper à cette rigueur dans d'autres établissements avec une discipline moins rigide. Ils ont eu cette chance, tant mieux pour eux. En règle générale, il ne fallait pas être différent. Georges Brassens, à juste titre, pendant cette période, a écrit dans sa chanson « La mauvaise réputation ». Les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux.
Eh, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. Et oui, donc en fait, c'est ça l'histoire. Hein. C'est que Paul grandit, bien sûr, il lit des choses intéressantes. Il est capable de réfléchir sur l'histoire. Il est capable de réfléchir sur le monde qui l'entoure. Et surtout, il développe cette fameuse familiarité avec le copain Michel. Mais hélas, le copain Michel, va déménager. Alors, voyons au début. Michel, lui, il dispose d'une grande chambre où nous pouvons jouer aux jeux de dames, aux mille bornes, au garage, avec des petites voitures, aux trains électriques. Et dans le jardin, ce sont les parties de ping-pong, les courses à prédic, le petit cocker, qui ne se laisse pas attraper facilement. Nous partageons des livres d'aventure, Bob Moran par exemple, et une fois par semaine, eh bien, nous retournons au cinéma. Nous allons au cinéma gratuitement l'après-midi, grâce à la directrice qui connaît Michel et nous laisse entrer. Nous adorons les grandes productions et les longs-métrages nombreux à cette époque. Paris brûle-t-il, Le jour le plus long, Les sept mercenaires, le train sifflera trois fois, bien d'autres. Et puis, quelquefois, nous aimons nous promener jusqu'au vieux port, aller contempler le paysage depuis l'esplanade de l'abbaye Saint-Victor. Un spectacle dont on ne se lasse jamais quand on est un bon Marseillais, n'est-ce pas ? Je m'amuse bien, mais donc Michel m'annonce une mauvaise nouvelle. Ses parents ont acheté un appartement à Aubagne. Ils déménageront à la fin de l'année. Et je vais à nouveau me retrouver seule avec ma mère. Alors, c'est vrai, les séparations dues au choix des familles peuvent être dures pour les enfants et pour les jeunes. On en entend souvent parler dans les romans pour la jeunesse. Et là, on le voit dans la biographie de Serge qui nous raconte la vie de Paul. Et Paul grandit quand même, hein. Paul grandit encore et il s'intéresse davantage au collège, au contenu de ses cours. Il trouve d'autres activités. Il trouve d'autres activités à l'extérieur, par exemple le patronage. Tout à l'heure, il nous a parlé du billard au patronage. Eh bien là, il va nous parler d'un curé vraiment très moderne.
Mon enseignement religieux arrive à son terme. Après la communion, la confirmation, je dois faire la communion solennelle, vêtue de l'aube avec le cordon autour de la taille et la croix de bois pendue à mon cou. Cette aube blanche est censée symboliser la pureté qui habite mon âme le jour où je reçois le corps du Christ. Rien ne me sera épargné. Afin de préparer cette ultime étape, je dois faire une retraite chez le curé de la paroisse avec mes camarades. Contrairement aux deux années précédentes, nous avons la chance de rencontrer le père Roger, un jeune prêtre d'une grande gentillesse. Grand, brun, cheveux longs avec d'immenses yeux bleus, il porte la soutane pour les offices religieux et quelquefois dans la rue. Mais le plus souvent, il est vêtu d'un jean, fume et se déplace en solex. Nous aimons beaucoup sa manière plus moderne de nous enseigner la religion, dans une atmosphère de joie, de rire et de convivialité. Il nous parle du message d'amour de Jésus, mais aussi du dernier film qu'il a vu au cinéma. À son contact, nous oublions le carcan, la maltraitance et les humiliations subies les années précédentes. Bien que je ne me sois jamais sentie impliquée ou concernée spirituellement par ces religions, j'ai apprécié la découverte et l'étude de l'Ancien et du Nouveau Testament, au même titre que l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, fascinée par les récits des peuples et civilisations anciennes, leur culture, leur migration, leur histoire. Et puis un jour, le père Roger rencontre Rosalie. C'est le coup de foudre, tout chavire, battement de cœur, tremblement, chaleur intense, tout y est. D'aucuns diront que c'est une facétie du destin. Le père Roger est devenu prêtre à la suite d'une déception amoureuse et Rosalie a connu un parcours un peu difficile. Très rapidement, Roger quitte les ordres, Rosalie reprend le commerce d'Angelo le manchot, malade. Ils se marient, tiennent leur commerce de fruits et légumes et seront les parents d'un magnifique petit garçon baptisé Arthur. Ils feront fi des commérages, du qu'en dira-t-on, pour vivre leur amour au grand jour devant les gens du quartier stupéfait.
Et oui, la modernité, c'est ça aussi. La modernité, dans les années 60, en effet, ce sont les prêtres défroqués. Hein. Il n'est pas le seul, Roger. Roger, il a trouvé l'amour. Il y en a d'autres qui ont des révélations d'autres types. Mais enfin, vous avez tous entendu parler, si vous avez notre âge, de Jean-Claude Barrault, Ségolène Lefébure, etc. Enfin bref, la modernité fait irruption dans la vie. Et la modernité pour Paul, ben, ça va être d'autres vacances, un autre type de vacances, puisque cet été-là, Paul ira en Angleterre. Et là, Françoise, elle tenait beaucoup à lire le passage sur Londres. Elle doit aussi avoir des souvenirs de Londres.
Le voyage à Londres. Pour me récompenser de mes bons résultats scolaires, mon père m'a inscrit à un séjour linguistique d'un mois à Londres. Cette perspective m'enchante et m'effraie à la fois, car je ne suis jamais partie sans mes parents. L'inconnu me fait autant envie que peur. Je me sens maladroit, timide et empoté. Le jour venu, je monte dans l'autocar, mon sac de voyage sur l'épaule et prends place côté vitre. Le car se remplit rapidement. Nous sommes 40 avec les moniteurs. Une fille s'assoit à mes côtés. Le bus démarre. Je fais signe à mes parents de la main. Le trajet va durer 12 heures avec plusieurs arrêts techniques. Décidé à profiter de l'aventure, je me jette à l'eau. « Salut, je m'appelle Paul. Je suis au collège du Vallon des Auffes. »« Je suis Annie. Je viens du lycée Marie Curie. La glace est rompue. Nous discutons de divers sujets. Cette jolie brune aux yeux verts est un peu plus âgée que moi. Elle a 15 ans, j'en ai 14. Dans le bus, l'ambiance est sympathique, d'autant plus que deux frères ont apporté leur guitare et jouent des chansons des Beatles et de Simon & Garfunkel. Tout le car reprend les refrains en chœur. La nuit tombe doucement. Le silence s'installe, chacun s'assoupit. Je n'ai aucune pratique au jeu de la séduction. La panique me paralyse. Annie pose sa tête sur mon épaule. Je n'ose plus bouger. Comprenant mon manque d'expérience, Annie me prend la main, me caresse la joue, m'attire vers elle et enfin pose ses lèvres sur les miennes. À cet instant, tout va très vite. Je comprends que je dois réagir et lui donne un vrai baiser avec la langue. Je suis content et satisfait. J'ai l'impression d'avoir franchi une étape. Durant cette nuit de voyage, nous n'avons pas beaucoup dormi. C'était très agréable et plein de tendresse. Arrivé à Paris dans la matinée, le chauffeur nous fait découvrir les grandes avenues, les bords de la Seine, les Champs-Élysées, le musée du Louvre lors d'un grand city tour. Le petit déjeuner au Trocadéro avec des croissants chauds, la tour Eiffel, les pieds dans la brume bleutée du petit matin, nous offre une ambiance surréaliste, tout est merveilleux. Puis, destination Calais et le ferry pour débarquer à Douvres. Là, nous traversons la campagne anglaise verte et plate pour arriver à Londres. Nous avons droit à une petite visite de la ville, les quais de la Tamise, d'où nous pouvons voir Big Ben, Tower Bridge, London Tower, Buckingham Palace et plusieurs maisons en briques rouges d'architecture victorienne. Ce premier contact est pour nous fantastique. Notre destination, l'auberge de jeunesse Peace Haven, avec ses dortoirs pour 6 personnes, garçons et filles séparés, son réfectoire pour les petits déjeuners et les repas, lamentable dans l'ensemble. Le soir, nous nous retrouvons dans la grande salle de bal pour danser et passer d'agréables moments tous ensemble. Lumière tamisée, musique assourdissante, ambiance torride, nous buvons des bières, fumons et flirtons librement avec la complicité de moniteurs compréhensifs. Annie m'annonce qu'elle casse. Nous restons copains, mais nous ne sortons plus ensemble. Voyant ma drôle de tête, elle m'explique. « Tu sais, Paul, à Marseille, mes parents ne me laissent pas libre. J'embrasse quelquefois des garçons en cachette sur le chemin, mais c'est toujours avec la crainte de rencontrer mes parents. Alors, j'ai vraiment envie de m'amuser, de sortir avec plusieurs garçons et de profiter de chaque instant. » À bien y réfléchir, je reconnais qu'elle a raison, vivant moi aussi dans le même contexte. Chaque soir, la programmation musicale se compose en alternance de séries de jerk et de slow. Le grand succès jerk du moment, c'est Baby Come Back des Equals et Rain and Tears de Aphrodite's Child. Pour le slow, nous sommes enlacés, complètement charmés par le timbre particulier de Demis Roussos. C'est un slow barker, une occasion de se caresser sensuellement et de s'embrasser. Je me sens libre, je flirte avec plusieurs filles et j'apprécie tous ces nouveaux plaisirs. Pendant la journée, munis de notre carte de libre circulation pour l'accès aux bus à étage et au métro, et par groupe de 10, un moniteur nous fait visiter les différents quartiers de Londres. Trafalgar Square, Carnaby Street, Soho. Nous découvrons une jeunesse anglaise bien plus en avance sur nous, cheveux longs, habits extravagants. Londres est devenue la capitale de la mode pour les jeunes, qui portent des tenues excentriques et révolutionnaires, pour nous et pour l'époque. La visite du British Museum est aussi un grand moment de découverte avec toutes ses collections provenant de tous les continents. Les sarcophages, les sculptures en pierre, je suis éblouie. Une fois par semaine, en fin d'après-midi, notre moniteur nous emmène dans un pub où nous écoutons en live des groupes de musique. Magique. Je me dis que j'aimerais bien être à leur place sur la scène devant un public. Nous sortons de Londres pour visiter Oxford, Cambridge, Stratford, où se trouve la maison de Shakespeare. Un soir, les moniteurs nous font une énorme surprise. Au Royal Albert Hall, salle de spectacle mythique, nous assistons au concert de Julie Driscoll, Brian Auger and the Trinity. Tu veux redire le nom de la chanteuse de tout
non,
à l'heure?
Non, ça y est.
Le son colossal me transporte littéralement. Julie Driscoll, coiffée d'un grand chapeau, chante pieds nus. Son charisme, son corps qui ondule au rythme de la musique et sa voix soul exceptionnelle nous éclatent. Sa chanson culte est Save Me, premier concert fabuleux que je n'oublierai jamais. En quelques années à peine, Londres représente le fer de lance de la culture pop et le chaudron musical qui déverse son influence sur l'Europe et dans le monde. Je partage ma chambre avec Bernard et Michel, qui chantent et jouent de la guitare. Ils font partie d'un groupe de rock à Marseille, baptisé Psycho Daisies, et reprennent des titres des Rolling Stones. Je me mets à rêver que moi aussi, je joue de la musique sur scène avec mon groupe. Hélas, le dernier jour arrive, retour à Marseille.
Oui, donc, en fait, c'est vrai, j'en plaisantais tout à l'heure en disant que pour chacun ou chacune d'entre nous, Londres, ça avait peut-être été la révélation. On a bien le sentiment là, que pour Paul, bah oui, il se passe quelque chose de vraiment différent. C'est à la fois les filles, la musique, en effet la musique rock, les groupes. D'un seul coup, tout est révélé, on pourrait dire. Et évidemment, après Londres, le retour est dur, c'est certain. Les parents acceptent des choses, mais en refusent d'autres. Donc, au fur et à mesure de cette rentrée, après les vacances, il va se passer bien des choses dans la vie de Paul. Et par moments, il va se sentir particulièrement brimé. Pourtant, sa vie est de plus en plus ouverte. Il va sortir en club le dimanche après-midi, par exemple, faire des rencontres. Il va gagner un petit peu d'argent de poche en faisant des petits boulots pour son père. Et même s'il nous dit que, je cite, il appréhende de retrouver sa cage, eh bien, il n'empêche que c'est vraiment maintenant l'adolescence et c'est vraiment la nouveauté qui va primer dans sa vie. Donc, la nouveauté, ça va encore se matérialiser par le fait que sa scolarité aussi se modifie. Paul va au lycée. Et au lycée, bien sûr, il rencontre d'autres choses, d'autres gens. Il a peu à peu, je vais citer rapidement les passages, il a là encore des confirmations de révélation avec des groupes comme les Beatles, Stones, Who, Led Zeppelin. Et il rencontre Bob, Chris et Manu, des camarades de classe dont il partage les goûts musicaux. Et ils vont, à tout ce qu'ils sont là, pouvoir vraiment pratiquer un petit peu de musique, pouvoir aller à des bals qui sont organisés par le lycée et rencontrer des groupes locaux qui viennent animer justement les bals du lycée. Alors, il rencontre en particulier, hein, j'ai noté, Serge, les performances des guitaristes Alain Carona et Joël Antonin qui interprètent des morceaux de Hendrix et de Clapton. Et ben moi, je ne me souviens pas du tout de Alain Carona et de Joël Antonin, donc voilà. Il n'empêche que la vie change, et la vie qui change, on va la voir en particulier avec la pause musicale, puisqu'on va donner sur l'antenne, eh bien, figurez-vous, une chanson de téléphone.
chacal, l'aventurier contre tout guerrier. Pomeran contre tout chacal, l'aventurier contre tout guerrier. Dérivant à bord du Sampang, l'aventure parfum dit la langue. Son surnom, samouraï du soleil, en démantelant le gang de l'archipel. L'otage du guerrier du Doc Satan, il s'en sortira toujours à temps. Tel l'aventurier solitaire, Pomeran est le roi de la terre.
C'était drôle ce dérapage, donc excusez mon dérapage, nous n'avons pas entendu téléphone, nous avons entendu Indochine. Alors en fait j'avais pensé à téléphone parce que je trouvais qu'il était bien dans la note de ce que disait Serge Bertrand et de l'enfance de Paul et de l'adolescence de Paul surtout. Mais finalement j'ai demandé qu'on nous passe Indochine, là vous venez d'entendre l'aventurier, donc chanté par le groupe Indochine. Parce que ce groupe français phare des années 80 ben, vient de passer à Marseille. Hein. Il est passé au Stade Vélodrome il y a 8 jours. Donc je pense que beaucoup de Marseillais sont allés les retrouver, sont allés les écouter au Vélodrome, puisque le succès d'Indochine ne se dément pas. Là, je ne sais plus, 40 ans après, ils sont en tournée et ils ont eu vraiment des foules qui venaient chanter avec eux, les applaudir, etc., dans les stades. Et Serge m'a dit qu'il n'était pas allé voir Indochine.
Non, j'ai pas eu l'occasion.
Passé à travers. Ouais. Donc, Serge est maintenant avec nous pour ce que j'appellerais la deuxième partie du livre, quand on est vraiment dans cette partie qui est la jeunesse, hein, après le lycée, et je vais demander donc à Serge de nous raconter lui-même un certain nombre d'épisodes. Au lieu de les lire dans son livre, eh bien on aura la narration en direct. Il y a d'abord un épisode moi, que j'ai trouvé amusant, c'est quand on fait des déguisements ou des soirées déguisées de Mardi Gras, soit au lycée, soit avec les copains de lycée. On a toujours des déguisements un peu étonnants. Eh bien, Serge va nous raconter l'histoire de Paul, le quiproquo de Mardi Gras.
Alors, dans le bar du quartier, qui s'appelait le Modern Bar, qui était tenu par deux filles homosexuelles, il y avait dans la journée des vinyles qui passaient, notamment du rock, Hendrix, les Stones, les Cream, etc. Et j'allais souvent dans ce bar pour passer un moment agréable, pour sortir de chez moi. Et un jour, je rentre et il y avait un titre exceptionnel qui s'appelle I'm Going Home. C'était le groupe Ten Years After, mais je ne connaissais pas. Et quelques années plus tard, ils seront révélés au festival de Woodstock. Ils auront une carrière internationale très brillante. Et je demande quel est ce morceau qui me plaît vraiment, avec des chorus de guitare vraiment exceptionnels. Et dans le bar, il y a un marin qui me dit « Mais tu sais, c'est Alvini qui joue et son groupe s'appelle Ten Years After. » Et très vite, il m'invite à sa table, on boit un coup ensemble et on discute. Et on sympathise. Et je lui demande « Écoute, en fin de semaine, je dois me rendre un bal masqué dans le quartier de Longchamp. Et est-ce que tu pourrais me prêter un de tes uniformes ? Parce que bon, je trouve ça joli. Alors il m'a dit, oui, pas de problème, ben, tu viens demain et je te passe un de mes uniformes et tu me les rendras après ta soirée. Et effectivement, le lendemain, je vais au bar, il me passe l'uniforme et je suis content parce que je trouve ça très beau pour aller à mon bal masqué. Alors le jour J, je mets l'uniforme, mais j'ai les cheveux jusqu'aux épaules. Et je commence à partir comme ça en ville et je traverse toute la ville pour me rendre à mon point de rendez-vous. Et lorsque j'arrive presque à destination, c'est-à-dire en haut de la Canebière, il y a une voiture qui s'arrête et il y a deux gaillards énormes qui descendent et qui me prennent en poids et qui m'emportent avec eux en me disant « Police militaire, suivez-nous ». Alors j'ai dit « Mais qu'est-ce que c'est ? Ne discutez pas, vous expliquerez devant l'officier de service ». Et il m'amène sur la Canebière au QG à cette époque-là de la police, de la marine nationale.
C'était la police militaire de la marine
nationale. Ouais. Et là, il m'amène au QG de la marine nationale. Et maintenant, c'est devenu un grand magasin CNE. Mmh. Mais à l'époque, c'était le QG de la marine nationale. Et là, alors, je suis soumis à la question, je suis sous haute surveillance. Et le gradé me demande, de quel régiment tu appartiens, depuis combien de temps tu es déserteur. Alors je dis, mais monsieur, je n'ai pas fait mon service militaire, c'est un malentendu. On m'a prêté, je me rendais un bal masqué, et je ne suis pas concerné par les accusations dont je fais l'objet. Alors non, tu me prends pour un imbécile, ceci, cela. Et alors il me pose encore des questions, et je lui explique que c'est un marin appelé, qui me l'a passé. Alors, finalement, il lance un appel radio et le gars est retrouvé, il vient, il se fait passer un savon et moi, finalement...
Il a dû passer un sale quart d'heure aussi.
Voilà.
Hein.
Alors, il appelle la police et il y a une équipe de l'évêché qui vient me chercher et qui m'amène à l'évêché parce que j'ai commis... un délit parce que ça s'appelle port illégal d'uniforme et en même temps ils vont dire que j'ai sali l'image de la marine.
Oui,
parce
c'est
que
j'ai des cheveux longs, outrage à l'image de la marine.
Outrage à l'image de la marine. Alors de ce fait, bon, les deux policiers ils répondent à des ordres, bon, ils ont été particulièrement sympas avec moi, mais ils m'amènent à l'évêché. Et là, je suis mis en dépôt, je me retrouve dans une cellule. Et le gardien, qui n'était pas très sympa, parce que je demande une fois que je suis enfermé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va m'arriver. Et il me dit, mais là on t'a mené en dépôt, mais demain, tu risques d'aller au Beaumet. Alors je suis très inquiet. Entre-temps, ma mère doit s'inquiéter, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les téléphones,
oui,
tout ça.
Sûr.
Et je suis pas rentré à la maison. Et le lendemain, les deux policiers viennent me chercher. Plus exactement, ils me ramènent au QG de la gendarmerie au boulevard de Plombières. Mais ils ont appelé ma mère pour qu'elle vienne me chercher avec des habits. Alors ma mère vient, mais entre-temps, je suis dans une salle. Et ils ont ramassé aussi, à l'opéra, une prostituée qui est complètement défoncée et qui attend. Et je suis là avec elle et j'attends. Et ma mère arrive avec les habits pour me changer. Mais elle pense que je me suis fait ramasser avec la prostituée. Alors elle part vers moi pour me frapper. Et il y a une longue table et je cours autour de la table pour échapper à ma punition. Mais le gendarme me dit « Ah, madame, je vous en prie, arrêtez-vous. » votre fils n'a rien à voir avec cette dame. Il a simplement utilisé un uniforme qu'il n'aurait pas dû porter. Et c'est pour ça qu'il est dans cette situation. Alors maintenant, il va se changer. Vous partez. Et il s'adresse à moi. Il me dit, toi, Minot, tu fais plus de conneries et tu obéis à ta mère. Et voilà mon histoire avec
Le quiproquo du Mardi Gras.
Le Mardi Gras.
Ah ouais, le Mardi Gras qui aurait pu vraiment mal se terminer.
Une nuit à l'évêché.
Et puis qui a montré, je crois aussi, à Paul que l'armée, ce n'était pas vraiment son truc et que ça l'encouragera ensuite à tout faire pour ne pas faire son service militaire.
Exactement.
Alors, on aurait pu, bien sûr, continuer encore très longtemps sur les souvenirs personnels. Il y a des voyages, par exemple, le voyage à Amsterdam, un autre voyage à Londres, le voyage au Maroc, enfin, beaucoup de choses qui ouvrent l'esprit de Paul, qui lui permettent de découvrir le monde. Moi, j'avais envie de revenir sur cette passion pour le cinéma. Puisque, en fait, Paul nous parle à bien des occasions dans son récit de son goût pour les films qu'il découvre. Et à la fin des années 60, au début des années 70, eh bien, en fait, Paul découvre 2001, Odyssée de l'espace, le film de Kubrick. Donc, je vais repasser la parole à Serge pour qu'il nous en parle, 2-3 minutes. Et puis ensuite, nous parlerons de sa musique et surtout, nous écouterons sa musique.
Ah oui, effectivement, depuis tout petit, j'ai toujours eu la passion du cinéma grâce à ma mère, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de télévision. Et il y avait les cinémas de quartier. Et toutes les semaines, ma mère m'amenait voir les films. Et j'ai toujours adoré le cinéma. Et adolescent, je suis allé voir 2001, l'Odyssée de l'espace. Et je suis un inconditionnel de Stanley Kubrick. J'ai vu tous ses films. Et je trouve que dans les réalisateurs, c'est un des plus grands. Et 2001, l'Odyssée de l'espace, j'ai dû le voir peut-être une douzaine de fois. Et la magie de ce film, c'est que qui dure très longtemps quand même, chaque vision, je découvrais de nouveaux plans que je n'avais pas vus la fois précédente. Et je trouve qu'il y a une dimension poétique et artistique phénoménale dans ce film. Parce que bon, ça évoque beaucoup de sujets différents. Et la fin, elle est extraordinaire parce que l'astronaute, il est dans son ogive et il se retrouve complètement
dans l'espace,
perdu complètement. Il arrive dans une salle toute blanche et il voit un lit. Et sur ce lit, c'est lui qui est en train de vieillir. Et il tend les bras vers ce personnage et en fait... on comprend que il a rencontré Dieu et il y a toute la pièce qui est blanche et lumineuse et c'est ce voyage cosmique de cet astronaute qui est évoqué et qui est très très intense.
Oui, qui est en fait une sorte de révélation.
Oui.
Et ces révélations, c'est ce qu'on trouve aussi dans d'autres formes d'art, et en particulier dans la musique.
Absolument.
Donc, c'est aussi dans la vie de Paul Serge, ou Serge Paul, un élément tout à fait primordial. Révélation de la musique, on pourrait dire, ce fait de faire de la musique soi-même, puisque donc Paul crée un groupe... avec des copains, comme Serge a créé un groupe avec des copains. Ils connaissent le succès. Paul nous raconte en particulier ses premiers succès avec une invitation au Bol d'Or, au Castellet, pour faire la sonorisation et donc l'ambiance musicale de la compétition du Bol d'Or. Et puis Paul nous raconte son expérience d'enregistrement au studio Davout, qui était un des grands studios... des années 60, 70, 80. Et en particulier, au studio Davout, sont passées vraiment des très grandes vedettes. Donc, Serge, tu peux peut-être nous dire une...
Bien sûr. Alors, je vais commencer d'abord par notre expérience au Bol d'Or. On était copains avec un magasin de musique où on achetait notre matériel et les cordes de guitare, les médiators, tout ça, et notre équipement aussi. Et il a un contrat avec le circuit Paul Ricard pour le festival du Bol d'Or. Et il nous dit, écoutez, là je fais la sonorisation et j'ai pensé à vous pour faire la première partie. Il va passer Dr. Feelgood et je vous ai mis dans le coup. Alors on est super contents, on répète les enchaînements, la mise en place des morceaux, etc. Et jusqu'à présent, on avait fait des petits concerts dans des petites salles devant des copains. Il y avait 50-100 personnes maximum. Et là, d'un coup, on se retrouve sur le plateau.
Un immense plateau, une immense scène en plein air.
Avec des milliers de bikers qui viennent de toute la région, y compris de toute l'Europe. Et à perte de vue, on voit des têtes serrées. Et alors la première impression, c'est qu'on a très peur, on se dit, mon Dieu, mais c'est la folie. Et après, le chef de plateau vient nous voir et nous dit, bon les gars, préparez-vous, ça va être à vous. Vous buvez un coup et vous y allez. Il faut tout donner parce que les gars, là, ils ne sont pas venus pour rigoler, ils veulent du rock. Allez-y et donnez-vous à fond. Alors on boit un petit verre de gin cul sec et on rentre sur la scène. Et là, alors c'est un flash parce que y a des têtes à perte de vue qui nous regardent et hop, on part et on a l'impression d'être à la fois les gladiateurs et les lions dans cette expérience. Et on fait notre set et chose incroyable, on est apprécié. Et le public nous redemande. Donc, on revient faire un rappel et c'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. Alors, après bien des années plus tard, je monte notre groupe qui aura la chance d'avoir un contrat avec les éditions Sarava, c'est-à-dire qui sont dirigés par Pierre Barou, celui qui a fait Un homme et une femme, et on va être distribué par RCA.
Mais alors là, moi, je vais te couper la parole. Je suis désolée. L'expérience du studio des vous, ça sera pour une autre fois.
Oh,
parce que je voulais
dommage.
Quand même qu'on écoute ta musique, entre guillemets, au moins 2-3 minutes. Donc, juste rappeler ton livre, Destination Rock. Bon, bien sûr, dans le podcast, vous trouverez toutes les références. Vous pouvez le commander en librairie, dans vos librairies habituelles. Et là, les 2 minutes qui nous restent à la place du générique, on va écouter la musique de Lawlessness, donc le groupe de Paul, Serge, on ne saura jamais, y a plusieurs années. Et on vous laisse donc avec Paul et avec son groupe de musique Destination Rock. À bientôt.
Merci beaucoup.
Got the height of hell. If you like the danger game of chance.
If you like the danger game of chance.